France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous dans Solae, le carême protestant. Comme chaque année, pendant cette période qui précède Pâques, et en 2026 du 22 février au 29 mars inclus, je vous retrouve sur France Culture à 16h. En partenariat avec la Fédération protestante de France et les éditions Olivetan, la paroisse de l'Église protestante unie de l'Annonciation a confié cette année les conférences du carême protestant 2026 à la pasteur Nathalie Chaumet, pasteur elle-même à Paris, à l'Église protestante unie de l'Étoile. Pour ce temps de carême, Nathalie Chaumet nous propose un chemin intérieur et biblique à partir de l'Évangile de Luc, autour du thème « L'audace de vivre, des gestes pour espérer ». Car vivre le carême aujourd'hui, ce n'est pas d'abord faire davantage, mais peut-être apprendre à vivre autrement. Se remettre à l'écoute de la parole, accueillir l'amour de Dieu dans nos fragilités, avancer vers Pâques dans la joie d'une grâce qui ne se mérite pas, mais qui se reçoit. Au fil de ces 6 entretiens, nous explorerons des gestes, parfois spectaculaires, parfois discrets, parfois même dérisoires en apparence, des gestes qui disent un choix, celui d'espérer envers et contre tout. Des gestes qui ont mis en mouvement des femmes et des hommes refusant la fatalité de la désolation. Ces gestes ne relèvent pas d'un passé figé, paroles vivantes de l'Évangile, ils viennent aujourd'hui encore nous délier de la peur, nous défaire de la violence et nourrir avec audace l'aujourd'hui de nos vies. Sur le chemin de Pâques, il ravive en nous le courage d'être avec reconnaissance et avec joie. Pour nous accompagner musicalement dans cet itinéraire radiophonique, le talent de Pauline Griffith. Pauline Griffith est harpiste professionnelle. Elle se produit aussi bien en orchestre qu'au sein de formations de musique de chambre, avec un répertoire riche et varié. Pédagogue engagée, elle transmet également sa passion en tant qu'enseignante au conservatoire de Chatou. Et tout de suite, cette virgule musicale tirée du morceau « Sense of Hosta » qui introduira et conclura ces 6 entretiens du carême. Bonjour Nathalie.
Bonjour Jean-Luc.
Nathalie Chaumet, aujourd'hui pour cette série sur l'audace de vivre, des gestes pour espérer, vous nous invitez à monter dans une barque, c'est celle de Jésus et Simon.
Oui, au commencement de ce temps de carême, je vous propose d'ouvrir notre réflexion par une histoire qui parle justement de commencement, d'appel, de premier pas, ceux des disciples à la suite de Jésus. Et tout va se jouer autour d'une partie de pêche au petit matin.
Alors il faut peut-être souligner, Nathalie, que cet appel des premiers disciples dans l'Évangile connaît un développement spécifique chez Luc.
Oui, dans les évangiles de Matthieu et Marc, Jésus passe au bord du lac et y appelle 4 pêcheurs qui le suivent. Mais dans l'évangile de Luc, ce récit d'appel est considérablement développé. Il est couplé avec plusieurs motifs, celui de l'échec, celui de l'enseignement de Jésus et celui de la pêche miraculeuse.
Alors, eh bien, écoutons le début de cette histoire au chapitre 5 de l'Évangile de Luc, les versets 1 à 6. Et c'est Florence Guémy qui sera notre lectrice pour ce texte, mais aussi pour tous ceux que nous entendrons pendant ces 6 rendez-vous du carême protestant. Bienvenue Florence sur France Culture.
Alors que la foule serrait Jésus de près pour entendre la parole de Dieu et qu'il se trouvait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques sur la rive, d'où les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets. Étant monté dans l'une de ces barques, qui était à Simon, il lui demanda de s'éloigner de la terre et d'avancer un peu au large. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande multitude de poissons et leurs filets se déchiraient.
Merci Florence. Alors dans ce récit, Nathalie, quel geste avez-vous repéré ?
Le geste sur lequel je propose de nous arrêter, Jean-Luc, c'est le moment où Simon jette le filet. Voilà que les disciples ont pêché toute la nuit, c'est Simon qui le raconte lui-même, et Jésus invite ce dernier à prendre le large pour jeter de nouveau le filet. C'est un geste de rien et la demande de Jésus peut sembler bien anodine. Après tout, inviter un pêcheur à pêcher, quoi de plus normal ? Mais quand on a répété inlassablement un même geste en vain une nuit durant, il faut quand même une certaine dose d'abnégation pour accepter la directive d'un autre, lequel, qui plus est, n'est pas pêcheur de métier. Ce geste relève donc d'un choix de la part de Simon, faire confiance ou non à la parole de Jésus, à une autre parole que le murmure intérieur du ressassement de l'échec. Et c'est pourquoi nous verrons, je l'espère, que ce geste est un condensé d'évangile, car il contient en lui-même la saveur des promesses, l'élan de la foi et le choix de la confiance.
Mais Nathalie, ce geste ne surgit pas spontanément, il est précédé, porté par toute une histoire qui commence sur la rive, autour des barques vides.
Oui, ce geste n'est pas un geste de hasard. Pour le comprendre, il nous faut entrer dans l'histoire qui le précède. Nous voici au bord du lac. Le bord du lac, c'est un lieu ouvert au vent, où les couleurs du ciel se reflètent dans la mer, un lieu qui ouvre un horizon. Le lac, avec ses eaux qui regorgent de poissons, nous renvoie aussi à la profondeur cachée, la richesse et la complexité de nos âmes. Et nous allons découvrir que ce récit questionne l'accueil du souffle de Dieu, du mystère de l'infini dans la profondeur de notre être. Mais nous n'en sommes pas là. Tout commence par une histoire bien prosaïque, une histoire du quotidien. Nous voici sur la rive avec les pêcheurs qui s'activent autour des barques. Il s'agit de trouver de quoi se nourrir, eux et leur famille. Ce rivage, je crois que c'est le théâtre de l'affairement des humains, dans la quête de subsistance. C'est la rive de nos vies, dans le va-et-vient de nos activités quotidiennes.
Pasteur Nathalie Chaumet, vous évoquiez une partie de pêche, mais le début de ce récit pourrait plutôt s'appeler « fin de partie ».
Tout à fait, c'est le matin dans l'histoire et nous pourrions croire que tout commence. Et pourtant, cette pêche vient de s'achever. Simon racontera plus loin que lui et ses compagnons ont donc pêché toute cette nuit en vain. Pour Simon et ses compagnons, c'est donc plutôt un épilogue. Certes, il n'est pas définitif, tout pourra se rejouer la nuit prochaine. Cependant, dans ces instants-là, sur la rive, c'est bien l'échec qui nous est raconté. Pas de poisson ce matin-là, barques et filets sont rangés. C'est l'expérience, je crois, de la vanité au sens des efforts, vous savez, Jean-Luc, des efforts en vain, du découragement que nous pouvons éprouver dans nos existences quand malgré toutes les tentatives, malgré tout le cœur mis à l'ouvrage, il faut accepter l'échec d'un projet, l'échec d'un engagement et affronter le vide qui en découle.
Sur la rive de cette histoire, ces pêcheurs, faut-il entendre nous ce que nous sommes à chaque fois que nous expérimentons le découragement, chaque fois que nous avons un sentiment d'à quoi bon dans nos existences?
Oui, ces barques vides sur la rive me paraissent symboliser le découragement, l'inutilité que nous pouvons connaître, les jours de désespérance, ces jours vides que nous traversons parfois face à l'échec. Et cette angoisse qui se creuse alors en nous de ne pas suffisamment être. Cette histoire nous raconte un élément que chacun de nous expérimente tôt ou tard dans son existence. C'est la manière dont le manque peut parfois venir occuper toute la place. Je veux dire par là que paradoxalement, le manque, c'est-à-dire en fait ce qui n'existe pas, le vide du réel, eh bien peut orienter finalement toute une vie. Considérons par exemple le manque de nourriture. Eh bien, pour la personne qui l'éprouve, la faim est une tenaille qui absorbe toutes les forces vitales, qui paralyse son esprit dans cette unique quête, trouver de quoi manger. Si nous prenons un autre exemple, l'absence de travail, eh bien, ceux et celles qui ont traversé ou traversent de telles périodes savent combien la recherche d'emploi est au cœur des préoccupations de chaque instant, qu'on y revient sans cesse. Et bien sûr, si nous prenons l'absence d'un être cher auquel la mort nous confronte, et bien dans le deuil, toute l'énergie psychique est absorbée par la perte de l'être aimé. L'être cher n'est plus là, mais toutes nos pensées sont tournées vers elle. L'absence creuse la douleur et c'est le vide justement qui nous emplit de chagrin. Ainsi, paradoxalement, le vide peut nous faire déborder de déception, de douleur, voire de colère.
Alors selon vous, Nathalie, peut-on tirer un signifiant particulier du fait que dans l'évangile, c'est le poisson qui manque ?
Au début du christianisme, le poisson est rapidement devenu pour les premiers chrétiens un symbole de leur foi. Dessiner un poisson, c'était par exemple tracer un signe de reconnaissance mutuelle. Peut-être qu'ici, l'absence de poisson vient signifier le manque de foi, l'absence d'espérance dans un quotidien basé sur la seule répétition de la quête de subsistance. Les disciples vaquent, mais leur vie se heurte peut-être à cette répétition du même, dans une perte d'élan de vivre.
Après cet extrait de la sonate de Scarlatti, revenons à notre récit, Nathalie, une histoire qui va d'un seul coup basculer.
L'histoire bascule parce que Jésus s'approche. Et c'est peut-être la première bonne nouvelle de ce récit. Dieu n'est pas dans le lointain de nos existences, il s'approche de nous. Il n'est pas seulement là, au temple ou à l'église, c'est dans le quotidien de nos vies qu'il nous rejoint, sur nos rivages, fût-il d'échec ou de découragement.
Cependant, la foule le presse tant que Jésus va prendre de la distance en montant dans la barque de Simon.
Oui, et il me semble que cet élément est significatif. En général, Jean-Luc, les commentateurs expliquent que parler depuis une barque sur l'eau était une manière ingénieuse de permettre à la voix de porter. Et c'est tout à fait juste. Mais j'y vois aussi une autre interprétation possible. Cette foule qui presse Jésus de toutes parts dans un mouvement de fusion ne permet pas l'espace de la résonance, de l'écoute. Jésus nous rejoint sur le rivage de nos vies, c'est vrai, mais en montant en barque, il nous dit aussi l'entre-deux nécessaire pour qu'une parole puisse devenir vivante. Je crois qu'en racontant cet écart de Jésus par rapport à la foule, le récit nous dit que le Christ n'est pas une possession sur laquelle nous pourrions faire main basse dans un mouvement un peu idolâtrique de chercher à posséder Dieu, de le détenir. Autrement dit, le récit nous dit que la foi n'est pas une mainmise, mais plutôt une résonance intérieure qui génère une proximité du cœur.
Et puis voilà que Jésus enseigne. Cette histoire est donc d'abord une histoire de parole.
Eh bien, c'est l'évangile de Jean qui le rappelle. Au commencement était la parole. Nous savons à quel point la parole est fondatrice. La vie trouve sa genèse, certes, dans l'acte de naître, mais symboliquement, elle débute avec l'appel de notre nom par ceux et celles qui nous convoquent à l'existence. Et dans ce récit, tout commence par la parole.
Nathalie, finalement, c'est tout de même assez frustrant, car de cet enseignement de Jésus, eh bien, nous ne savons rien. Pourtant, nous serions bien avides de connaître la teneur de cette parole.
Oui, voilà qu'il semble ne rien rester de cet enseignement. La parole de Jésus paraît disparaître dans le vent. Ce que la foule en reçoit de cette parole, eh bien, nous n'en savons rien. Mais par contre, la manière dont cette parole va rencontrer Simon, voilà ce que nous raconte Luc. « Avance en eau profonde, dit Jésus à Simon. » La parole, Jean-Luc, que l'Évangile a conservée, est celle qui s'adresse personnellement à Simon. Et je crois que peut-être ce récit nous invite à découvrir comment la parole biblique nous rejoint là, aujourd'hui, dans la petite barque de notre existence pour nous appeler à vivre. Ce que Luc vient nous raconter, ce n'est pas peut-être long discours de Jésus, ce qu'il vient nous raconter, c'est la résonance, l'écho de la parole de Jésus en Simon. Et cette résonance tient en appel, avance en eau profonde et jetez les filets. Voilà la seule parole que Luc retient de Jésus. Et c'est au moment où Simon s'est senti personnellement interpellé que soudainement la parole n'est plus des mots au grand vent. Et aujourd'hui, cet appel... Il est pour nous, avance en eau profonde et jetez les filets. Et Jean-Luc, quelle poésie dans cet appel, ne serait-ce que dans ces quatre mots, avance en eau profonde.
Alors Nathalie, lorsque je vous écoute, je me dis que le terme poésie est peut-être un tout petit peu exagéré. C'est quatre mots pour une poésie, n'est-ce pas, quand même un peu court. Et puis c'est un appel, pas vraiment une poésie qu'on déclamerait par exemple à l'école.
Eh bien Jean-Luc, les haïkus sont économes en mots.
C'est vrai.
Et pour autant poétiques. Peu importe finalement que nous ne sachions rien de l'enseignement qui précède, car ces quatre mots, Jean-Luc, se suffisent. Ils valent bien plus que toute une prédication, aussi longue soit-elle. Avance en eau profonde, je crois que tous nous comprenons l'image qui est sous-entendue. Vas-y, quitte les rivages connus de tes certitudes, défais-toi de la terre ferme de tes habitudes, va plus loin, en eau profonde, là où tu n'as pas pied.
Alors, il serait peut-être aussi intéressant de rappeler un peu le contexte. À l'époque, la pêche se faisait près du rivage. Le peuple n'était pas un peuple de marins. La mer était pour lui plutôt le lieu de l'abîme, du néant, de l'engloutissement. Et c'était l'élément qu'on ne maîtrisait pas, une force insaisissable au gré du vent. Dans la Bible, d'ailleurs, la mer représente les éléments mouvants de notre existence, voire terrifiants jusqu'à cette peur qui nous concerne tous, finalement, la peur de l'engloutissement de notre vie dans les méandres du néant.
C'est tout à fait vrai, Jean-Luc. Et même si aujourd'hui, les plus gros navires parcourent les mers du monde entier et nous donnent une impression de maîtrise, eh bien, je crois que cet appel à avancer en eau profonde reste parlant, signifiant. La mer, les flots mouvants et parfois menaçants nous renvoient à tout ce par quoi nous craignons d'être engloutis ou de sombrer. Avancer en eau profonde, oui, c'est vrai, c'est risquer de perdre pied. C'est risquer de perdre la maîtrise. C'est peut-être risquer d'être englouti aussi par nos peurs ou par nos angoisses. Il n'est pas si facile de nous détacher des rives de nos existences, de nos bien-être, de nos conforts. D'ailleurs, plus tard dans l'Évangile, Simon, devenu Pierre, tentera de marcher sur l'eau, c'est-à-dire de marcher finalement symboliquement sur sa peur, d'avancer par-delà l'angoisse de mort qui parfois paralyse tout un chacun vers le Christ, et il faudra que celui-ci lui vienne en aide, justement. Avançant en eau profonde, cette parole nous invite à oser aller au-delà de nos habitudes, de nos certitudes. Et d'ailleurs, au terme de cette histoire, Simon et les autres disciples quitteront ce rivage de leur existence. Ils suivront Jésus sur les routes de Galilée, sur des chemins qu'ils n'auraient jamais osé imaginer. Ce sera un changement radical, majeur. Mais avant cette suivance, il y a ce geste, un geste qui pourrait sembler de rien, cet appel à jeter les filets.
Eh bien, nous y voilà donc à ce fameux geste. Pasteur Nathalie Chaumet, vous disiez d'ailleurs au début de l'émission qu'il est une sorte de condensé de l'Évangile.
Eh bien, ce geste est pour moi, je crois, l'acmé du récit, à la fois le révélateur de tout ce qui est en jeu et la bascule de l'histoire, le moment où, au vide du découragement, va succéder une profondeur d'espérance. À cet instant-là s'opère un choix. Simon doit décider s'il fait ou non confiance à la parole de Jésus. Or, ce que Jésus semble proposer à Simon, c'est la répétition du même, rien de neuf. Une fois encore, jeter le filet. Simon a de quoi être perplexe, il faut bien le reconnaître. Il l'a expliqué d'ailleurs, toute la nuit nous avons pêché sans rien prendre. Mais il a cette réponse, sur ta parole, je jetterai le filet. Simon doit choisir s'il est fidèle à ses expériences manquées ou s'il va prendre ce nouvel appui sur la parole de Jésus.
Alors nous pouvons dire que ce geste de Simon, c'est le choix de la confiance en une parole qui va se révéler, parole de vie.
Oui, il s'agit, je crois, de sortir de l'ornière, celle de la duplication de l'échec, du vide, dans la répétition d'une existence en surface. Mais oui, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas si facile de quitter les rives du découragement, retrouver l'élan, le désir d'y croire, de croire quand la vie nous a éprouvés. Ce n'est pas si simple. Alors comment ne pas être tenté de rester sur le bord? Sur cette rive décourageante certes, mais aussi rassurante, comme nous le disions, de nos vies, comment choisir l'audace d'aller plus loin? Ce geste de Simon, c'est un geste au grand large. C'est un geste d'espérance. C'est un geste de confiance. C'est la foi. Je dirais en dépit d'eux, la foi sur les malgré de l'existence. Or, cette foi en dépit d'eux est rendue possible par une parole, puisque Simon dit
« Sur ta parole, je jetterai le filet. »
Sur ta parole. Ces quelques mots sont pour moi extrêmement signifiants. Tous nous avons besoin d'une parole sur laquelle appuyer nos vies. C'est la parole du parent qui donne à l'enfant la confiance des premiers pas. C'est l'encouragement de l'enseignant qui donne à l'élève la confiance pour apprendre.
Pour autant, choisir de faire confiance à une parole nécessite un discernement. On ne peut pas faire confiance à la parole du premier venu, peut-être encore plus dans le monde dans lequel nous vivons d'ailleurs.
Oui, c'est tout à fait juste. Faire confiance nécessite bien entendu un discernement. D'ailleurs, les parents apprennent plutôt à leurs enfants à se méfier de la parole des inconnus. Et ils ont bien raison. Il ne s'agit pas d'écouter à n'importe quelle parole posée au gré des modes ou des influences. Qui plus est aujourd'hui dans l'explosion des réseaux sociaux, nous pouvons le dire. Il s'agit même au contraire d'être capable de discerner derrière les apparences, derrière les belles paroles, celles qui risquent de s'avérer mortifères. Et c'est pour cela que j'ai un attachement particulier pour cet évangile de Luc. Dans ce récit, le choix de la confiance de Simon ne surgit pas d'un coup. Jésus ne lui demande pas d'emblée d'abandonner ses barques et de le suivre. Il lui demande une chose insignifiante, jeter le filet. Jésus va lui donner d'éprouver dans sa vie quotidienne la consistance de sa parole. Et c'est ensuite seulement que Simon suivra Jésus, parce qu'il aura expérimenté la manière dont cette parole a ouvert l'horizon, généré du possible dans sa vie. Un peu comme un joueur expérimente la confiance en son entraîneur ou un musicien en son professeur, par exemple. Avance en eau profonde, cette parole a de l'épaisseur et c'est pourquoi elle a traversé les siècles jusqu'à nous. Aujourd'hui, cette parole nous est donnée pour faire naître ou renaître le désir de renouer avec l'appel à vivre que Dieu nous adresse, au risque du grand large, au risque de la profondeur, au risque de jeter les filets, au risque d'oser, au risque d'aimer.
Alors, vous parliez poésie tout à l'heure. Vous vouliez, Nathalie, justement nous donner d'écouter maintenant un tout petit poème.
C'est un poème d'Yves Namur et nous écoutons Florence nous le lire.
Dis-moi quelque chose sur lequel notre vie puisse s'élever. Un mot qui à lui seul pourrait t'ouvrir le silence et les regards noueux et les portes de la fragilité.
Avec délicatesse, Yves Namur nous rappelle à quel point la parole est fondation, à quel point un mot peut suffire à renouer la confiance. Un peu comme un « je t'aime » devient un socle d'appui pour une vie à deux. Un peu comme un « vas-y » donne à l'enfant la confiance de s'élancer.
Ce geste au grand large à l'écoute de la parole va permettre ensuite un autre choix beaucoup plus radical, c'est celui de suivre Jésus sur ses chemins.
Oui, ce récit est l'introduction, la préfiguration d'un changement de taille. Or, nous sommes plutôt résistants au changement. Le changement nous fait peur. Nous savons ce que nous perdons, nous ne savons pas ce que nous trouverons. L'incertitude est difficile à vivre et beaucoup préfèrent ne rien changer, rester sur le rivage, quitte à tourner en rond autour du vide. Or, avez-vous remarqué, Jean-Luc, avec quel art, je dirais presque quel maïeutique, Jésus procède ? Il n'appelle pas ici, dans l'évangile de Luc, d'un seul coup Simon. Il passe donc par cette étape de la pêche miraculeuse. Il invite Simon à ce petit geste, ce geste de rien auquel nous revenons donc. Nous pourrions croire que donc Jésus propose à Simon l'énième recommencement du même. Et c'est ainsi que Simon le comprend. Et il hésite donc à répéter ce geste. Il a raison d'une certaine manière, car nous l'avons tous expérimenté. Répéter pour répéter mène inlassablement au même résultat. Dans nos vies, nous sommes assez champions pour répéter plusieurs fois les mêmes erreurs. Mais en réalité, Jésus a introduit une variation dans ce geste, et c'est ce qui est passionnant. Jeter le filet, certes, mais cette fois-ci, au large, en eau profonde. Et c'est de cette variation minime que va surgir une variation immense. Des filets vides aux filets pleins, Simon va pouvoir ensuite entrer dans un autre changement, suivre Jésus. Cette réflexion m'a été inspirée par un chapitre de l'ouvrage d'Anne Dufour-Mantel, L'éloge du risque, qui porte justement sur ce motif de la variation. Florence nous en lit des extraits.
La variation est un art très formel de la répétition choisie, et donc surmontée. Elle fait entrer dans la répétition même un dispositif d'invention suprême. Dans cette navigation, les instruments sont des guides inhabituels parce qu'il s'agit précisément de s'exercer à perdre le rivage, à se perdre tout court, et à trouver dans le chemin de cette perte la boucle d'un désir intact.
Eh bien voilà, je crois que cette histoire nous dit que changer, cela commence parfois simplement par introduire une variation dans nos vies. Peut-être oser un pas de danse, peut-être oser un engagement nouveau, peut-être découvrir que du neuf peut surgir sans que nous nous soyons perdus. Oui, faire œuvre nouvelle, ce n'est pas forcément tout changer d'un seul coup dans nos existences. Il faut parfois l'éprouver, ce changement, cette variation possible. L'expérience donc de la variation peut nous aider à retrouver le goût de la joie, de l'essai, du possible. Simon va-t-il se perdre en avançant en eau profonde ? Il va au contraire faire l'expérience de la plénitude. Anne Dufour-Mantel évoque aussi la nécessité parfois de déplacer la ligne d'horizon. Déplacer la ligne d'horizon dans nos existences, voilà, je crois, l'invitation de ce récit.
Alors cette danse que vous évoquez là me fait penser à l'un des plus beaux films de l'année passée, Life of Chuck. Déplacer la ligne d'horizon. Eh bien c'est ici ce que Pierre accepte de faire en prenant large, en s'éloignant d'une vie en surface, en jetant le filet.
Oui, Jésus l'aide à déplacer sa ligne d'horizon. Le regard de Pierre est transformé, élargi. Cette histoire vient nous rappeler que du possible peut encore surgir pour qui choisit la confiance. Et c'est pourquoi je la trouve si belle. Il nous dit, cette histoire nous dit qu'il est une parole qui fait vivre, une parole qui n'est pas au ciel, mais qui nous rejoint au plus près de notre existence. Une parole qui réouvre l'espace de nos vies, qui nous donne de quitter nos rivages, d'oser, même dans la plus petite variation de nos existences, d'abandonner le ressassement de l'hier pour réouvrir le possible, la profusion, le multiple. Voilà, ce récit nous décrit la foi comme le surgissement de la confiance en cette parole de vie que le Christ incarne. Et souvenez-vous, nous avions ouvert cette émission en disant que cette histoire du petit matin sonnait plutôt comme une conclusion dans la fin d'une partie de pêche. Eh bien, soudainement jaillit du neuf, une abondance qui se fait promesse. Soudainement s'ouvrent les chemins d'une histoire nouvelle, c'est le matin d'un élan nouveau. Oui, avec ce geste, tout commence pour les disciples.
Jeter le filet, déplacer notre ligne d'horizon, malgré la fatigue et le doute, c'est choisir de faire crédit à une parole qui remet en mouvement un premier geste d'audace pour apprendre que l'espérance commence parfois là où nous pensions avoir tout perdu. Merci beaucoup Nathalie Chaumet, merci Florence Guémy et à dimanche prochain, 16h. Solae, le carême protestant, vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Merci à Thomas Jost pour la réalisation et à Dalia pour la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Les éditions Olivier Tan éditent comme chaque année un livre, Des gestes pour espérer, correspondant à ces conférences, avec quelques ajouts complémentaires, au prix de 15€ plus frais de port. Et les commandes peuvent être réalisées en ligne sur le site internet www.éditions-olivetan.com dès aujourd'hui. L'ouvrage sera envoyé directement par voie postale à l'issue des conférences. Et maintenant, sur France Culture, je vous laisse avec le carême catholique.